Radio Kapi. Oh, Kapi. À la une ce midi, la décision du secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique de fermer plus de 1000 écoles suscite des réactions. Le député Sakata, par exemple, que vous écouterez dans ce journal, pense que cette décision va renvoyer des milliers d'enseignants au chômage et priver plusieurs dizaines des milliers d'élèves à un cadre pour leur scolarité. 4 civils tués, dont une femme et 3 assaillants neutralisés. C'est le bilan d'une attaque attribuée aux présumés rebelles d'ADF à Banyama ce mardi 30 mars 2021. Les FARDC déployés dans la région sont intervenus pour repousser l'ennemi. Monsieur Bakre Ndiaye, expert international sur le Kasaï qui a achevé sa visite en terrain en RDC vendredi 26 mars, est notre invité. Il estime que la situation de l'homme dans la région du Kasaï reste encore difficile et fragile, aussi bien sur le plan du respect des droits civils, politiques que des droits économiques et sociaux. Bienvenue à tous. La décision du secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire et technique de fermer plus de 1000 écoles va susciter des conséquences désastreuses sur le plan social en RDC. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi à Kinshasa le député Gary Sakata de la commission suivie et évaluation de l'Assemblée nationale. Pour l'élu de Bagata, fermer plus de 1000 écoles qui fonctionnent déjà pendant plusieurs années revient simplement à renvoyer des milliers d'enseignants au chômage tout en privant plusieurs dizaines des milliers d'élèves un cadre pour leur scolarité. Michel Kifindangoy.
Les raisons avancées par le secrétaire général de l'EPST pour la désactivation de près de 1200 écoles de la RDC ne sont pas fondées, affirme le député national Gary Sakata. Pour l'élu de Bagata, une telle décision est préjudiciable pour l'éducation et le social des Congolais.
Comment peut-il prendre une mesure aussi grave que celle de désactiver les écoles et leur personnel au motif que ces écoles fonctionnent avec des faux arrêtés? Que va-t-on faire à des centaines d'élèves inscrits dans ces écoles et que deviennent les centaines de Congolais membres du personnel qui y travaillent déjà pour certains depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans ou même 5 ans?
Le rapporteur de la commission suivie et évaluation de l'Assemblée nationale invite donc le secrétaire général de l'EPST à retirer sa lettre sans condition.
Alors que le gouvernement à peine déjà à combattre le chômage, mais le secrétaire général veut en rajouter. À dire que ces écoles fonctionnent parfois depuis plus de 20 ans, 10 ans, c'est quand même étonnant qu'il sera co-responsable des troubles à l'ordre public rural. Ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'au lieu de désactiver ces écoles, il fallait qu'il puisse les régulariser.
Pour Gary Sakata, l'inspecteur général des finances ne devrait pas formuler des recommandations à partir de Kinshasa sans s'imprégner de la situation de terrain.
Près de 2000 cas des troubles mentaux, majoritairement des enfants, ont été enregistrés dans la région du Grand Nord Kivu au cours de l'année 2020. Ce chiffre a été livré à Radio Kapi par le père Kivuriko Onesfor, psychologue clinicien à la polyclinique Sainte-Croix de Moulot. Ce centre de traitement des malades mentaux fonctionne notamment à Butembo, Beni et Lubero. D'après le père Kivukiro Onesfor, autour de 20 000 patients sont actuellement pris en charge depuis l'avènement des massacres de l'ADF dans la région. Père Kivukiro Onesfor au micro de Florida Kambo.
Seulement à Moulo, sur 4363 ASIEC, il s'est ajouté 413 nouveaux cas pour seulement l'année 2019. Alors, à 2020, nous avons maintenant atteint 1985 nouveaux cas dans nos structures. Donc, le pourcentage a triplé. Maintenant, nous avons à charge autour de 20 000 patients. Donc, les nouveaux cas et les ASIEC que nous traitons encore. Si nous voyons le tableau actuel et le climat psychologique, social de notre pays, les guerres, les carnages, les conflits de terres, les conflits de familles, l'Ebola et maintenant le Covid-19 sont à la base de l'accroissement des nombres. Beaucoup de gens ont été stigmatisés suite à l'épidémie de l'Ebola, les gens par exemple qui ont perdu leurs membres, les gens qui n'ont pas accepté les actions de la riposte. Cette résistance a aussi entraîné un manque d'adaptation dans la société.
Notez que pour la prise en charge des cas de stress et traumatisme en milieu scolaire, la polyclinique Sainte-Croix a organisé hier mardi à Butembo une formation à l'intention des membres du comité des parents, des responsables de l'EPST Nord Kivu 2 et de l'ANAPECO. Dans la province du Congo central, le médecin responsable de la coordination provinciale lèpre et tuberculose annonce la résurgence des cas de la tuberculose multirésistante dans les zones de santé urbaines. Docteur Ambroise Umba indique que toutes les 31 zones de santé du Congo central sont touchés par la tuberculose à des degrés différents. Cependant, dans les zones de santé situées le long de la nationale numéro 1, notamment celle de Boma, Matadi, Nzanza, Mwanda et Mbanzangungu, plus de 70% des malades tuberculeux y sont notifiés. Le médecin coordonnateur provincial lèpre et tuberculose explique cette montée en flèche des cas de tuberculeux en milieu urbain par la promiscuité et par la simultité des signes cliniques existants entre la Covid-19 et la tuberculose. Il invite toute personne qui tousse et qui vit proche d'un sujet tuberculeux à se faire dépister précocement en vue de briser la chaîne de transmission de la dite maladie. Docteur Ambroise au micro de Nana Plurichmambou.
De plus en plus, notre province connaît des recrudescences des cas de tuberculose multirésistante. Avec les données que nous avons, quand nous prenons la ville de Matadi avec ses deux zones de santé, nous sommes à la ville de Boma et nous prenons les autres agglomérations le long de la nationale numéro 1. C'est là où nous avons plus de 70% des malades de la province. Il y a de moins en moins de malades dans les zones de santé rurales. Parce que le mode de contamination de la tuberculose, c'est contaminé par voie aérienne. Voilà les conditions desquelles nous vivons dans les villes. La promiscuité dans une parcelle ou dans des ménages. Il suffit qu'une seule personne soit atteinte de la tuberculose. Avec aussi le retard de dépistage. Si nous voulons arrêter cette chaîne de transmission, nous pensons à un dépistage précoce. Toute personne qui tousse, de quelle que soit la durée, doit se présenter à l'hôpital. Aujourd'hui, avec la COVID-19, comme il y a des similitudes dans les signes cliniques, n'attendez pas seulement la COVID, il y a aussi la tuberculose. Avec les données que nous avons, dans la province, nous dépistons 5000 tuberculés. Nous avons plus de 200 malades qui sont décédés de la tuberculose dans la province en 2020. Ne fuyez pas l'hôpital parce que vous toussez, vous pensez que c'est la COVID-19.
Au moins 30 000 enfants nés ces deux derniers mois au Nord Kivu n'ont pas encore reçu le vaccin BCG, vaccin qu'on donne aux enfants à la naissance pour les protéger contre la forme aiguë de tuberculose des enfants. Cette situation est liée au retard dans la commande du vaccin, selon le docteur Stéphane Anse-Batei, médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV au Nord Kivu. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
Effectivement, le problème est lié aux commandes, c'est-à-dire au niveau central, on commande au moins 6 mois avant. Et c'est un vaccin traditionnel donc, où le pays achète. Donc il y a le cofinancement du pays avant qu'on passe commande. Et vous savez, avec la situation politique, ça fait qu'il y a eu un petit retard lié à ça. Mais je crois que les commandes sont en cours et au moment opportun, dès que le vaccin va arriver, on va organiser cet rattrapage pour vacciner les enfants. Les conséquences, c'est que les enfants sont vulnérables face à cette maladie. Et je pense qu'ils sont encore sous la protection materno-transmise. Je crois que jusque-là, on n'a pas encore observé de problème. Mais dès que le vaccin va arriver, on va récupérer les enfants qui n'ont pas reçu le vaccin.
24 motos, plusieurs équipements médicaux ainsi que des matériels sanitaires et médicaments. C'est l'appui que l'UNICEF a remis ce mardi au gouvernement provincial de l'Équateur. La dotation comprend également des kits scolaires, des lave-mains ainsi que des équipements de forage d'eau potable. La remise a été effectuée personnellement par le représentant pays de l'UNICEF. Les autorités provinciales ont salué cette action de l'UNICEF et apprécié son accompagnement continu de la province. Le point avec Paul-Richard Malengela.
On le sait bien, l'Équateur a connu la 11e épidémie d'Ebola du 1er juin au 18 novembre 2020 et la province fait encore face à la pandémie du Covid-19. Pendant cette période de résilience, le besoin en ressources matérielles reste immense. Voilà pourquoi l'UNICEF a volé au secours. L'agence onusienne a remis ce mardi 24 motos, des équipements médicaux et d'assainissement ainsi que des kits scolaires. L'objectif pour le représentant pays de l'UNICEF est le renforcement du système sanitaire de la province en vue de répondre efficacement à toute éventualité. Edouard Begbede.
L'UNICEF s'est engagé à soutenir les efforts du gouverneur à travers la mise en œuvre des activités de la riposte Ebola et poursuivre les acquis du projet. Il est important que lorsqu'on travaille sur une épidémie, on regarde aussi les résultats à moyen et à long terme et comment soutenir un système de santé qui soit plus fort pour la prochaine épidémie.
Le ministre provincial de la Santé, Dr Bruno Ifoloko, qui représentait le gouverneur de province à cette cérémonie, a reconnu que cet appui va davantage désenclaver les zones d'intervention d'accès difficile.
Tous, vous serez d'accord avec moi que notre province, avec sorte d'accessibilité difficile, que cette remise puisse favoriser encore un meilleur rendement.
Saluant enfin ce énième appui de l'UNICEF, le chef de division provinciale de la santé, Dr Jacob Mossalé, a promis une bonne utilisation de ses ressources matérielles, dont cette forage avec système solaire. Bandaka, Paul-Richard Malengue, la radio Okapi.
Je le disais en titre, dans le territoire de Béni, 4 civils tués, dont une femme et 3 assaillants neutralisés. C'est le bilan d'une attaque attribuée aux présumés rebelles de l'ADF à Beu Manyama ce mardi 30 mars 2021. Selon la société civile locale qui livre l'information, cette attaque a eu lieu à 4 km de Beu Manyama. Les FARDC déployés dans la région sont intervenus pour repousser l'ennemi. André Kitenge pour les détails.
C'est aux environs de 15h mardi que ces hommes armés, identifiés comme des rebelles ADF, ont attaqué un village non loin de Beu Manyama dans le groupement Batangimbao, secteur de Benimbao. Ils ont d'abord tué 4 civils selon la société civile, avant de s'attaquer aux FARDC en poste dans la zone. Kinos Katuo, président de la société civile de Mamove, explique.
La dernière fois, on a commencé à tuer 4 personnes à Morisoma Bandanga, un village situé plus ou moins à 4 km avant d'atteindre Beu Manyama.
L'armée de son côté dit avoir déjoué cette attaque des assaillants venus visiblement de l'Ituri. Elle parle de 3 assaillants neutralisés et une arme AK-47 récupérée, sans aucune autre précision à propos des civils tués. Lieutenant Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1.
Votre armée est intervenue le plus rapidement possible et a empêché que l'ennemi s'attaque à la population. Bilan, côté ennemi, nous avons neutralisé 3 terroristes ADF et récupéré une arme AK-47.
Rappelons que cette attaque intervient 24 heures seulement après celle de Samboko Chani-Chani qui a coûté la vie à 5 civils. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En Ituri, la présence des éléments de la Codeco dans plusieurs villages des chefferies de Baéma Nord continue d'inquiéter les déplacés et retournés dans ces entités. Les autorités locales et les membres de la société civile l'ont dit ce mardi au représentant spécial chargé des opérations et de la protection de la MONUSCO, Kassim Diane, lors de sa visite à Roé dans le territoire de Djougou. Ces représentants des populations demandent à la MONUSCO de faire un plaidoyer auprès des autorités nationales pour qu'elles accélèrent le processus de DDR des éléments de cette milice. Reportage de Martial Kizabiamongu qui revient de Roé.
Le chef coutumier aux représentants des jeunes a passé à part les associations des femmes et des personnes déplacées. Tous les interlocuteurs de Kassim Diagne ont été unanimes sur les dangers que pose la présence des éléments de la Codeco dans plusieurs entités du territoire de Djougou. Selon eux, ces hommes armés ont érigé des campements proches des sites de déplacés, notamment à Drodro. Leur crainte est d'être la cible de leurs attaques. Désiré Magouga, président de la société civile du secteur de Walindoutati.
Nous avions lancé l'appel à toutes les couches de sécurité de prendre mesures précoces pour calmer la situation.
Le nouveau représentant spécial adjoint, Kassim Diagne, a réitéré la volonté de la MONUSCO de continuer à protéger les civils aux côtés des autorités congolaises, conformément à son mandat.
Je suis très rassurant par rapport à la MONUSCO et à la présence des forces de sécurité. Ensuite, maintenant, réfléchir avec les autorités sur la question du DDR.
Notons que Kassim Diagne a quitté l'Ituri ce mercredi pour Beni au Nord Kivu après une brève visite à Tchabi dans le sud du Rumu, une région en proie des exactions de rebelles du ZDF. Des retours d'Héro en Djougou, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, dépôt ce mardi au bureau de l'Assemblée provinciale de la motion de défiance contre le gouverneur de province Jean-Maoué Jamouteba. Après la réception de ce document signé par 5 députés provinciaux, le bureau de l'Assemblée provinciale accorde 48 heures à l'autorité provinciale pour fournir ses moyens de défense contre les faits qui lui sont reprochés, et cela à la plénière prévue ce jeudi. Des explications avec vous, Esther Ndalafina.
Les griefs retenus à charge du gouverneur de province Jean-Maoué Jamouteba sont les détournements de deniers publics, le manque de leadership, l'incompétence notoire, la faible mobilisation des recettes ainsi que la non-exécution du budget. Ce n'est pas tout. Les députés provinciaux déplorent aussi le dysfonctionnement de l'exécutif provincial, l'outrage à l'Assemblée provinciale, la mauvaise gouvernance, le manque de transparence, le manque de collaboration, le non-respect du programme gouvernemental ainsi que le manque de vision pour le développement de la province. Cette motion de défiance contre le gouverneur de province figure parmi les arriérés de matière de la session de septembre 2020. Le président de l'organe délibérant a indiqué ce mardi dans son discours d'ouverture de la session de mars que cette motion contre le gouverneur avait été étouffée suite au dispositif sécuritaire sollicité auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité par le ministre provincial de l'Intérieur. Le gouverneur de province a été notifié ce mardi même de la motion par le bureau de l'Assemblée provinciale qui l'invite à la plénière prévue ce jeudi pour fournir ses moyens de défense sur les faits portés à sa charge. Esther Nalafina Mboujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des tirs nourris ont été entendus durant cette nuit du 30 au 31 mars à Niamey, au Niger, dans le quartier administratif proche du palais de la présidence. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues et la situation s'est apaisée après un quart d'heure, selon les sources sécuritaires. Ce matin, tout est rentré dans l'ordre. Au centre-ville, la circulation était fluide, tout était sous contrôle. Les forces de l'ordre sont déployées en nombre au rond-point hôpital et devant le siège de l'Assemblée nationale. En Centrafrique, Faustin Archange Touadéra a été investi pour un deuxième mandat. Le président burundais était sur place, de même que les premiers ministres du Rwanda, du Cameroun et du Gabon, alors que l'Angola, le Congo, le Tchad et la Guinée équatoriale étaient représentés au niveau ministériel. Côté RDC, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a fait le déplacement.
L'invité.
La situation de l'homme dans la région du Kasaï reste encore difficile et fragile, aussi bien sur le plan du respect des droits civils, politiques, que des droits économiques et sociaux. Déclaration de Monsieur Bakr Diaye, expert international sur le Kasaï, qui a achevé sa visite de terrain en RDC vendredi 26 mars 2021. Dans une interview accordée à Radio Okapi, l'expert onusien attribue cet état des choses à l'impunité dont jouissent encore les auteurs des graves crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis dans cette partie du pays. Monsieur Bakr Diaye répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Bakringa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelle est la situation des droits de l'homme dans le Kasaï?
Je pense que c'est une situation qui est toujours difficile, fragile, aussi bien sur le plan du respect des droits civils et politiques que surtout sur le plan des droits économiques et sociaux. Puisque vous savez qu'il y a tout le résiduel de la crise du Kamina Sapu qui reste encore à digérer, à gérer, à récupérer pour en tirer des leçons pour le futur. Cela suppose à la fois satisfaire le besoin de justice, de vérité et de réparation, mais aussi s'adresser aux causes profondes qui ont leur source dans l'absence de développement, dans l'absence d'emploi, dans l'absence d'accès à des ressources ou à l'utilisation appropriée des ressources qui existent au Kasaï.
Devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, vous avez déclaré il y a quelques jours que peu de progrès ont été réalisés dans la lutte contre l'impunité au Kasaï depuis l'année dernière. Qu'est-ce que vous amène à tirer cette conclusion?
Elle est objective. La crise du Kamina Sapu remonte à 2017, si j'ai bonne mémoire. Nous sommes en 2021. À ma connaissance, une seule personne a été jugée et condamnée à perpétuité et cela remonte à ce mois. Ce qui veut dire que pour le moment, c'est l'impunité qui caractérise la sanction des graves crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'actes indicibles qui ont été commis au Kasaï pendant cette crise, qui a quand même fait plus de 5000 morts et entraîné le déplacement de plus de 1 500 000 victimes. Et parmi ces victimes, il y a surtout les femmes, les enfants, les jeunes sans avenir qui, à mon avis, s'ils ne sont pas pris en charge, resteront une sorte de bombe à retardement que personne ne souhaite.
Et d'après vous, qu'est-ce qui empêche des progrès dans la recherche de la vérité, donc dans la mise en œuvre du combat contre l'impunité?
Vous savez que le premier rapport de notre équipe d'experts internationaux sur la situation au Kasaï, qui date de juillet 2018, avait fait une description très claire des faits, leur qualification en droit de l'homme et en droit international humanitaire et en droit criminel international, et avait identifié un certain nombre d'acteurs dans la commission de ces violations. Ce que nous avons pu constater, c'est que la justice militaire a les compétences nécessaires pour identifier les critères de sélection des cas les plus graves qui doivent être soumis à jugement, et aussi pour instruire ces dossiers. Et parmi ces dossiers, vous savez qu'il y a eu notamment celui des deux experts du Conseil de sécurité qui ont été assassinés, Michael Sharp et Zaida Catalan, et de leurs quatre accompagnateurs congolais. Mais il y a aussi d'autres cas importants, comme ce qui s'est passé en Ganza, les 36 policiers qui ont été exécutés, etc. Alors, ces dossiers, à mon avis, souffrent à la fois du sous-effectif flagrant de la justice militaire, mais aussi de lenteur qui doivent être recherchées dans une certaine sorte de résistance passive Il y a également aussi le besoin de moyens scientifiques et à ce sens, vous savez que le Conseil des droits de l'homme avec le Haut Commissariat a dépêché une équipe technique de spécialistes de médecine légale qui ont beaucoup aidé pour fonder les enquêtes qui sont en train d'être faites. Mais à mon avis, cette équipe aussi devrait être solidairement renforcée.
Oui, insuffisance des ressources humaines et matérielles, mais qu'est-ce qui doit être fait?
Bon, à mon avis, ce qui doit être fait a déjà été recommandé depuis longtemps, notamment l'emploi de juges militaires féminins, parce qu'il y a beaucoup de femmes et de filles qui ont été victimes. Et nous pensons que cette féminisation aiderait à mieux adresser certains cas. Mais il y a des ONG, en tout cas, à mettre aussi en œuvre la justice civile, et pas seulement la justice militaire. Mais certains ont même proposé l'institution de chambres mixtes ou de tribunaux spéciaux, pas seulement le Kassai, mais peut-être pour l'ensemble du pays. Mais toute cette solution-là demande du temps et certainement des réformes constitutionnelles qui sont du ressort de la souveraineté du Congo.
Dans l'entretemps, certains crimes commis au Kassai vont bientôt totaliser 5 ans sans qu'aucune enquête n'ait été menée. N'y a-t-il pas risque que le temps efface les traces matérielles et empêche finalement la justice à se faire un jour?
Bon, vous savez que ce sont des crimes imprescriptibles. Du point de vue juridique, il n'y a pas de problème. Et même, vous savez que la CPI, la Cour pénale internationale, est saisie de l'ensemble de la situation du pays. Mais vous savez que pour la conservation des preuves aussi, si on a des moyens techniques qui peuvent permettre de déceler des preuves, même des années après.
Monsieur Bakran Ndiaye, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ainsi se referme cette édition de nos informations sur Radio Okapi. Merci d'avoir suivi. Journal mis en ondes par Jean-Claude Siala, coordonné par Élisée Chikota et supervisé par Alain Irung. Je me nomme Nico Kalambay. Restez sur Okapi, nos programmes se poursuivent.